Et bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous voir les uns les autres, même si je ne connais pas tout le monde, mais je reconnais plusieurs visages quand même au travers de ces magnifiques mosaïques. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est vous transmettre les bonnes salutations des frères et sœurs de l'assemblée du Sepsamor, voisine. Donc, puisque ce matin nous étions réunis par les mêmes moyens exactement. Donc, sans être très loin les uns des autres, et je ne leur ai pas demandé l'autorisation de vous transmettre leurs salutations, mais je le fais, et dimanche prochain, je leur dirai que je l'ai fait. Voilà, des bonnes salutations fraternelles de tous. Et oui, comme cela a été souligné, ces temps sont très particuliers, mais ils nous permettent en même temps peut-être de découvrir certaines potentialités qu'il y a dans la technologie que nous utilisons tous les jours, mais tellement peu par rapport à tout ce qui existait. On découvre, et nous-mêmes, voilà, nous sommes comme vous en expérience avec Zoom depuis maintenant une semaine et demie, 2 semaines. Oui. Donc voilà. Alors, ce matin, je n'irai pas directement dans un sujet qui soit exactement dans l'actualité, mais toutefois, nous y toucherons quand même d'une manière assez précise, puisque la parole de Dieu est réellement vivante pour nous aujourd'hui, et quels que soient les thèmes que nous abordions, nous savons qu'ils sont d'actualité pour nous. Quelle richesse de savoir que la parole de Dieu est le journal le plus à jour, même si on ne sait pas encore combien on va nous annoncer ce soir, malheureusement, de morts, de gens contaminés, mais nous savons que la parole de Dieu est fiable. Le dictionnaire Larousse, l'encyclopédie Larousse plus exactement, dit: depuis la sécularisation des sociétés occidentales, le personnage de Jésus a été jugé et parfois récupéré en dehors de toute foi en Dieu. Il est considéré tour à tour comme un moraliste, un révolutionnaire, un des précurseurs du pacifisme. Si les historiens s'accordent aujourd'hui à dire qu'il n'est pas possible d'écrire une biographie scientifique de Jésus, ni d'en fournir un itinéraire détaillé, il s'estime toutefois capable de reconstituer les principaux moments de son existence. Et à côté de cela, l'encyclopédie Universalis, c'est quelque chose d'un peu vieux pour les plus jeunes d'entre vous, hein, mais c'est encore d'actualité, dit ceci: il est peu de personnages historiques dont l'influence sur l'histoire de l'humanité ait été aussi grande que celle de Jésus. Eu égard à la durée exceptionnellement courte de sa prédication, il n'a pas fondé de religion et sa vie n'est en rien comparable à celle du Bouddha, de Confucius ou de Mahomet, dont l'activité s'exerça durant des années. Et pourtant, depuis 2000 ans, avec son enseignement et sans cesse repris, son enseignement sans cesse repris et commenté par ses fidèles, sa personne vénérée comme celle du Fils de Dieu, la foi en lui annoncée en toutes les langues de la terre, les non-chrétiens et les adversaires même du christianisme reconnaissent en lui une personnalité hors pair, et chacun interprète son œuvre et son message en fonction de ses opinions philosophiques ou politiques. Jésus est tour à tour présenté comme un moraliste, un maître à penser, un idéaliste, un peu rêveur, un messager du socialisme ou un révolutionnaire. Ce matin, qui est Jésus pour nous? Je vous propose de vous embarquer avec moi dans un récit de la vie de Jésus et de ses disciples. L'événement en question nous est rapporté par trois des disciples de Jésus qui ont passé d'ailleurs 3 petites années avec lui, donc Matthieu, Marc et Jean. D'habitude, c'est Matthieu, Marc et Luc qui rapportent les mêmes événements. Et bien là, pour celui-ci, non, c'est Matthieu, Marc et Jean. Donc, chronologiquement, cet événement suit l'annonce de la mort de Jean-Baptiste. Cette mort bien triste, une triste nouvelle pour Jésus et ses amis, un deuil. Et ça suit aussi la première multiplication des pains. Un événement bien singulier et quelquefois difficile à avaler. Mais toutefois, pas plus déraisonnable ou incroyable, semble-t-il, que la naissance même de Jésus, ou que cette voix lors du baptême de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voix entendue à nouveau lors de la transfiguration, avec un bonus. « Écoutez-le !» Ou encore, toutes les guérisons et les divers miracles attribués à Jésus, et sans oublier la propre résurrection de Jésus. Bien heureusement, les chrétiens authentiques, ne faites pas à Noël la venue d'un petit Jésus, même s'il est bien question d'un enfant qui est né. Il s'agit de Jésus, Dieu fait homme, la parole faite chair, le Christ, le Messie annoncé, Sauveur et Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 14 et au verset 22, à partir du verset 22. Je lis dans la version du Semeur, Semeur 2015, Matthieu 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, donc les événements auxquels nous venons de faire allusion, Jésus pressa ses disciples de remonter dans leur bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens !» lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». J'arrête là ma lecture pour ce matin. Incroyable ! Incroyable un homme qui marche sur l'eau. Qui plus est, sur une mer houleuse, avec des vents contraires. Ça fait plutôt rire de nos jours, un rire même plutôt moqueur, quand l'événement est raconté en société. Serait-ce une farce ou une fake news, comme on dit ? Ce jour-là, ceux qui ont assisté à la scène, eh bien, ils ne rigolaient pas, eux. C'était même plutôt la panique à bord. Le texte nous dit, comme nous venons de le lire, qu'ils poussèrent des cris de frayeur. Les disciples voyaient quelque chose d'irréaliste. Cela arrive à tout le monde d'être effrayé, c'est clair. La peur, c'est humain, surtout quand quelque chose nous surprend et que cette chose n'est pas habituelle. On pourrait même se dire finalement, Jésus, Fils de Dieu, il aurait pu directement monter dans la barque plutôt que de marcher vers la barque. Au lieu même, comme le dit Marc dans son évangile, au lieu de vouloir les dépasser, c'est ce qui est dit en Marc 6, 48. Jésus devait bien savoir qu'il allait les faire finalement mourir de trouille, ses disciples. Ce n'était pas le moment de leur faire une blague. Ils luttaient, ils ramaient dur pour lutter contre les vents. Peut-être même était-il à bout de force. Un peu comme chacun de nous, quand nous traversons certaines épreuves de la vie, certaines luttes, certaines souffrances, il y a des moments plus difficiles à traverser. Pour certains, en ce moment, le confinement est peut-être très difficile à assumer. Pour d'autres, non, mais pour certains, oui. Et cependant, cet événement qui nous est relaté ici dans l'évangile de Matthieu se déroule dans la foulée d'un temps de prière à part de Jésus. Il nous est dit que Jésus, une fois que toute la foule fut dispersée, et qu'il se mit à part pour prier. On peut se poser la question, pourquoi Jésus priait-il ? Probablement déjà, après ce temps qu'il venait de passer avec cette foule, un temps sans doute assez long, où il a enseigné, prêché le royaume de Dieu, où il y a eu cette distribution des pains. Donc cela a pris du temps. Il était fatigué, il avait besoin de se ressourcer auprès de son Père. Un bon exemple pour nous rappeler qu'il nous faut nous mettre à part pour nous retrouver auprès du Père. Mais Jésus, pourquoi priait-il ? Il y avait sans doute, quand il s'est arrêté après ce temps avec cette foule, eh bien, ce souvenir qui est venu à lui peut-être, cette annonce qu'il venait d'apprendre de Jean-Baptiste décapité, son cousin, le précurseur, celui qui a ouvert la voie pour lui. Peut-être qu'il était là dans le deuil, dans la souffrance, dans la tristesse devant son père, à prier pour la famille de Jean-Baptiste, pour sa mère, son père, ses frères, se réjouir aussi peut-être avec son père de ce que l'évangile, le royaume de Dieu, a été annoncé à cette foule juste avant. De prier pour cette foule, peut-être. Et peut-être aussi, fort probablement, comme il nous est dit, que pendant qu'il priait, voilà, la mer était agitée et ses disciples luttaient contre le vent. Peut-être qu'il priait pour ces gars-là, qui peinaient à traverser. Alors, Père Céleste, aide-les, donne-leur du courage, donne-leur la résistance nécessaire. C'était peut-être là aussi une prière de Jésus pour ses disciples qui luttaient à ce moment-là. Je voudrais m'arrêter sur le fait que Jésus passe. Quand Jésus passe, pour rappeler ce que j'ai souligné tout à l'heure, en Marc, il dit, voilà, Jésus allait comme pour traverser le lac directement et passer devant eux. Eh bien, quand Jésus passe, il se passe toujours quelque chose, mais pas toujours ce que l'on imagine. Ici, Jésus passe et finalement n'est pas reconnu par ses propres disciples avec qui il était peu de temps avant, peut-être 2 heures avant, peut-être 1 heure, peut-être 3 heures plus tôt. Et c'est vrai qu'avec la tempête, évidemment, la visibilité n'est pas terrible, elle n'est pas très bonne. Donc, on peut comprendre qu'il ne l'ait pas reconnu et peut-être qu'il était à une certaine distance là sur l'eau. Et puis aussi, l'effet de surprise, si vous voyez quelqu'un marcher sur l'eau, vous n'êtes pas en train de vous demander, mais qui c'est ? Vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que c'est possible plutôt ? Est-ce réaliste ? Est-ce vrai ? Et eux, qu'est-ce qui leur vient à l'esprit ? Eh bien, un petit peu, tous ces dires, toutes ces croyances, ces superstitions, autour de ce fameux lac, autour de la mer, on pense tout de suite à un fantôme, comme disent les textes. Et ils se disent, mais est-ce qu'il s'agit d'un fantôme ? Et ils prennent peur, bien évidemment. On parle de ces monstres qui viennent du fond de la mer, qui se manifestent, ces croyances qui existaient en ce temps-là. Que va-t-il se passer quand ils sont effrayés ? Ils se mettent à crier et Jésus va répondre à leurs cris. Jésus qui passe par là ne les laisse pas, ou qui va dans leur direction, comme dit Matthieu, ne les laisse pas avec leur interrogation, ne les laisse pas avec leur peur. Et sa voix, la voix de Jésus, va traverser la tempête. va traverser la tourmente. Quelquefois, on se demande, comme certains psalmistes, est-ce que Dieu entend mon cri? Est-ce qu'il m'entend vraiment? Est-ce qu'il réalise dans quelle tourmente je suis? Je suis tellement tourmenté finalement que je ne peux même pas l'entendre. Et Jésus, lui, sa voix va traverser cette tourmente et il va interpeller ses disciples sur trois points. Vous regardez le verset 27, trois points. Rassurez-vous, c'est moi et n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi et n'ayez pas peur. Arrêtons-nous juste quelques instants sur chacun de ces points très brièvement. Rassurez-vous, que veut-il leur dire? D'autres traductions disent « ayez du courage ». Courage. En fait, ne vous laissez pas abattre. Vous en avez vu d'autres. Si vous vous souvenez, dans l'évangile de Matthieu, quelques chapitres plus tôt, au chapitre 8, des versets 23 à 27, un autre événement nous est relaté sur ce lac. Alors que Jésus dormait dans la barque, une tempête s'est levée, ses disciples ont pris peur. Et toi, Seigneur, tu dors là tranquillement. Et ils l'ont réveillé. Hein? Mais que se passe-t-il? Jésus calma la tempête. Et on peut se dire, mais ses disciples, ils ont la mémoire courte. Et puis quand on pense à ce qu'ils viennent de vivre avec Jésus, cet enseignement avec cette foule, ces 5000 personnes, hein, ces 5000 hommes, sans compter les femmes et peut-être les enfants qui étaient là, et qu'il leur a partagé ce pain, les miracles auxquels ils ont déjà assisté. Et celui que je viens de rappeler, Jésus, maître des éléments, maître de la nature, Jésus ne leur fait pas le reproche, il leur dit simplement « rassurez-vous, courage ». Vous en avez vu d'autres. Accrochez-vous, les gars. C'est un peu ça qu'il leur dit. Soyez tranquilles. Et le deuxième point dans ce verset 27, c'est moi. Ce c'est moi, dans la bouche de Jésus, et d'ailleurs dans les textes originaux, pourrait se traduire littéralement par je suis. Ça vous rappelle quelque chose, bien entendu. Je suis celui qui suis, je suis celui qui est le vivant, votre guide, votre Dieu, votre maître. Exactement comme Dieu s'est révélé à Moïse en Exode chapitre 3 verset 14. Oui, Jésus veut dire à ses disciples concrètement qu'il est là. Le je suis de Dieu, c'est je suis de toute éternité et je suis là, présent aussi. Avec vous, il est à côté de nous, prêt à nous encourager, à nous soutenir. C'est ce qu'il dit à ses disciples. C'est ce qu'il autorise d'ailleurs à leur dire, rassurez-vous, gardez courage, prenez courage, parce que je suis. Ce Jésus qui, dans les évangiles, nous dit, c'est quand ses paroles nous sont rapportées, je suis le pain de vie, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie, je suis le cep. Quelle belle image à laquelle vous pouvez rester attaché, attaché à je suis, attaché à Jésus-Christ. C'est moi, dit Jésus, je suis là. Rassurez-vous, ayez courage, c'est moi. Vous ne m'avez pas reconnu, dit-il à ses disciples, c'est moi. Je suis, personne d'autre. Et le troisième point qui est soulevé là, la troisième interpellation de Jésus à ses disciples, il est toujours à distance et sa voix traverse la tourmente, traverse la tempête, traverse le vent, traverse la houle des vagues. N'ayez pas peur. Quel encouragement. C'est bien le prolongement du « rassurez-vous, ayez courage ». N'ayez pas peur, quel encouragement, quelle exhortation. Une exhortation d'ailleurs qui traverse toutes les Écritures. Ce matin, le prédicateur dans notre assemblée, c'était Mamie Andria, certains d'entre vous le connaissent peut-être, pasteur à l'église, l'assemblée de Palaiseau, eh bien, nous partageait quelques réflexions sur le livre d'Ésaïe au chapitre 41. Et justement, dans ce chapitre, nous lisons ceci, déjà dans l'Ancien Testament. Donc, Ésaïe écrivait de la part de l'Éternel à son peuple, « Ne sois pas effrayé, 41:10, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » C'était la promesse de l'Éternel à son peuple, au peuple d'Israël qui réclamait la délivrance. Et Dieu lui-même lui suscite un libérateur. D'une manière temporelle à ce moment-là, et également d'une manière prophétique. Ne sois pas effrayé. Au passage, on souligne juste, je viens à ton secours, je te soutiens de mon bras droit, de ma droite, la droite de Dieu qui manifeste la toute-puissance. Hein? On pourrait passer un temps à parler de la droite dans la Bible. Une belle image pour parler de la force de Dieu lui-même. Jésus ne reproche pas à ses disciples d'avoir peur. Il veut en effet les rassurer, de même que les prophètes de l'Ancien Testament, dans leurs moments de doute, d'angoisse ou de dépression, ont souvent entendu, comme nous venons de le lire, « N'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis avec toi. » Belle promesse, quel bel encouragement de la part du vivant des vivants. Ce texte nous laisse perplexes par certains moments clés du récit. Par exemple, l'enthousiasme de Pierre. On dit toujours, bon, Pierre, c'était le grand enthousiaste, celui qui ouvrait sa bouche le premier, celui qui était toujours sur le devant de la scène, à prendre la parole pour ses collègues disciples. Évidemment, là, c'est lui qui l'ouvre. Et parce qu'il était enthousiaste, c'était dans sa nature, et on ne peut pas le lui reprocher, mais c'est un enthousiasme qui paraît un peu bizarre. Un enthousiasme qui dit qu'il a un peu envie de se jeter à l'eau. Il fallait quand même du cran, il fallait une confiance en Jésus, une confiance aveugle pour y aller sur cette mer agitée par les vents. Il n'est pas vraiment sûr de reconnaître la voix de Jésus, mais comme ça y ressemble bien quand même, et surtout par ces paroles qu'il a dites, « si c'est toi, dit-il à Jésus, donne-moi l'ordre de venir. » Quel exemple, un Pierre prêt à obéir à la voix de Jésus, à la voix du Maître. Alors si c'est vraiment toi, Seigneur, vous en avez entendu des témoignages comme ça, peut-être que c'est votre cas aussi, de certains qui sont venus à Dieu en disant, si tu existes Dieu, si vraiment ce que m'ont raconté cela ou cela encore, ou ce que j'ai entendu ou ce que j'ai lu est vrai, eh bien, allez, dis-moi, viens. Et je viendrai. Et c'est ce que Jésus fait. Le texte, le récit nous rapporte que Jésus lui répond, « Viens, viens, puisque tu me fais confiance, viens, Pierre. » Et ça marche. Ça, c'est le cas de le dire, ça marche sur l'eau pour Pierre. La magie opère. Pierre marche sur l'eau. « Waouh, quelle victoire !» se dit-il peut-être. Ce « vient » nous renvoie aussi à plus important peut-être que le fait de marcher sur l'eau, à tous ces « venez à moi » de Jésus, ces invitations « venez à moi, prêtez l'oreille, venez à moi et votre âme vivra ». C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe aussi au chapitre 55, les premiers versets. Et un de ces fameux, de ces plus fameux peut-être, venez à moi, en Matthieu 11, 28, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui croulez, je vous donnerai du repos. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Dans notre récit, l'important n'est pas tellement le fait de marcher sur l'eau, phénomène auquel nous nous attachons plus qu'à quoi que ce soit d'autre, même si cela nous dit clairement quelque chose, dans le sens que Dieu est réellement maître des éléments, que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu, maître des éléments. Dieu fait homme. L'essentiel dans ce récit, c'est que Jésus se révèle au travers de cet épisode. Oui, il faut le reconnaître, toutefois, hors norme, épisode tout particulier, mais Jésus se révèle au travers de cela, comme au travers de nombreux autres épisodes que nous pouvons lire dans les récits évangéliques. Et alors que Pierre est tout content de pouvoir marcher sur l'eau, eh bien, ça ne va pas durer longtemps. Il est à nouveau touché, atteint par la peur. Pierre est cette fois saisi par la violence de la tempête à nouveau, comme quand il était sur le bateau, à part qu'il était un peu rassuré par la coque dans laquelle il se trouvait. Là, il n'y a plus rien sous ses pieds que l'eau, et il se trouve tout d'un coup embarrassé dans l'incapacité de gérer ce trouble. Il est réellement troublé, saisi par tout ce qui se passe autour de lui. Cela nous renvoie à ce que l'apôtre Jacques, qui peut-être pensait à cet événement, entre autres, en écrivant dans son épître au chapitre 1 au verset 5, « Celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent, ballottées d'un côté et de l'autre. » C'est vrai qu'on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de douter? Est-ce que Jacques dit « Tu ne dois pas douter ». Bien sûr, il va encourager à ne pas douter. Mais il dit « Celui qui doute ressemble à cela ». Et c'est exactement la situation ici de Pierre. Et de quoi s'agit-il quand Jésus dit à Pierre « Ta foi est bien petite » ou « bien faible » ou en fonction d'autres traductions « homme de peu de foi ». En fait, Pierre avait-il réellement confiance en Jésus au point de continuer d'avancer après avoir mis les pieds et avoir fait quelques pas sur l'eau? Ou bien avait-il plutôt confiance dans sa propre foi plutôt qu'en la personne même de Jésus? Avoir la foi, chers amis, chères sœurs, chers frères, c'est vraiment tout un programme. Il faut quelquefois se reposer la question, en qui ai-je la foi? En Jésus, en Dieu, ou bien dans ma propre foi? Ai-je confiance dans la foi que j'ai, ou ai-je vraiment foi en Jésus lui-même? Et la parole de Dieu, la Bible, nous dit clairement que seul Jésus et seul Dieu est digne de foi. Il est celui qui tient ses promesses, et vous le savez comme moi si vous connaissez la Bible, et c'est votre cas, je suppose en tout cas pour la plupart d'entre vous. Et Dieu fait ce qu'il dit, il tient ses promesses. Jésus avait invité Pierre à venir à lui. Pierre est venu, il a marché, il regardait vers Jésus, il était tendu vers lui, il avait confiance en lui. Jusqu'au moment où il a perdu, en quelque sorte, la vision de Jésus. Il a perdu la vue de Jésus. S'est-il mis à croire que finalement il s'était trompé et que c'était un fantôme? Je ne sais. Il hésite, mais il hésite probablement beaucoup plus à cause de la tourmente. Comme si tout d'un coup, il était tellement saisi par la tourmente, tellement pris dans ses pensées par cette tourmente, il commence à regarder à droite, il regarde à gauche. Il a perdu sa concentration sur la personne même de Jésus. Il a perdu son horizon. Il a perdu sa vision de Jésus. Il n'était plus entièrement concentré sur la personne du Christ, sur celui qui lui avait dit « Viens ». Celui à qui lui-même a demandé de lui dire « Si c'est vraiment toi, donne-moi l'ordre de venir. » Et là, tout d'un coup, c'est terrible ce qui m'arrive. Je suis perdu. C'est la noyade assurée. Ça vous est jamais arrivé de vous trouver dans cette situation? de vous sentir perdu, c'est la noyade assurée. Et même quelquefois, sans penser même à se demander où est Dieu, où est-il dans tout cela, tellement préoccupé, tellement pris par ses soucis, par cette difficulté, par ce problème, par ce deuil même. Clairement, Pierre était en situation de crise, comme nous aujourd'hui, en situation de crise sanitaire. Eh bien, lui, il était en situation de crise, de doute, de perte de sa vision de la personne de Jésus. Comme s'il ne le voyait plus, il s'est laissé tout simplement distraire. Nous nous laissons si facilement distraire, pas seulement par les difficultés et les problèmes, mais même quand tout va bien, et peut-être surtout quand tout va bien. Nous nous laissons distraire par tous les événements de la vie, par tout ce qu'il y a autour de nous, qui nous semble bien plus palpable, plus réel, plus touchable, plus à notre portée, et quelquefois plus troublant, plus jouissif dans certains cas et plus troublant dans d'autres. Mais ce qui est frappant, c'est la graine qui était au fond du cœur, dans le fort intérieur de l'apôtre Pierre, de celui qui est devenu apôtre, le disciple de Jésus, ce Pierre tout zélé, prêt à obéir et prêt à se casser la figure, à tomber, à chuter. Eh bien, cette graine qui était là, que Dieu avait mise dans son cœur, eh bien, dans ce moment de trouble, tout d'un coup, réalisant qu'il était perdu, qu'il était dans une noyade assurée, eh bien, tout d'un coup, il s'est mis à crier à Jésus. Il n'a pas oublié celui qu'il avait appelé. Même s'il avait perdu sa vision, voilà, tout d'un coup, il s'est réveillé un peu dans ce trouble, conscient de son besoin, in extremis. Ça nous arrive aussi souvent. Au fond du trou, ou presque, tout d'un coup, on se met à crier. Je nous renvoie à une multitude de psaumes qui nous rappellent la situation de certains, de ceux qui nous ont précédés et qui nous ont laissé ces psaumes pour, à notre tour, crier à Dieu dans des moments de désespoir ou dans des moments tout simplement d'égarement, criant à Dieu, conscient de notre besoin, comme l'apôtre Paul à ce moment-là, il était perdu sans Jésus et il appelle Jésus au secours. Et que se passe-t-il ? Est-ce que Jésus va lui répondre ? Est-ce qu'il va se contenter de lui dire qu'il a une petite foi, comme si la foi était une question de quantité ? Et non, ce n'est pas une question de quantité. La foi ne se mesure pas dans une balance. La foi, c'est la confiance en Dieu, et ce n'est pas une question de mesure, c'est une question d'abandon à la personne de Dieu. Et là, dans son sursaut, dans son cri au secours, eh bien, comme ce qui s'est passé auparavant quand ils étaient dans la barque en train de lutter, de ramer contre le vent, Jésus entend ce cri parce qu'il est là, il est présent, quelle que soit notre situation. Et quand nous crions à lui, même si nous nous sommes éloignés, même si nous sommes dans les doutes, Jésus est là, prêt à tendre la main, prêt à saisir notre main. Comme nous pouvons le lire encore en Ésaïe au chapitre 41 et au verset 13, « Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu, je saisis ta main droite. » C'est intéressant de lire. C'est le plus souvent dans la Bible, on parle de la droite de Dieu, de la main droite de Dieu. Et ici, c'est « Je saisis ta main droite. Je te dis, sois sans crainte. Je suis là pour t'aider. » Nous retrouvons cet encouragement, cet appel à ne pas craindre et cette main tendue de Jésus pour que nous la prenions à nouveau. Pourquoi faudrait-il prendre la main de Jésus ? Pour nous, chrétiens, pour nous qui lui avons déjà donné la main, il arrive si fréquemment que nous lâchions sa main sans nous en rendre compte. Même si lui ne la lâche pas, nous, nous la lâchons quelquefois. Pensant peut-être que, voilà, plus ou moins consciemment, que je peux traverser la route tout seul. Vous savez, un peu comme les enfants. J'ai vu qu'il y a des tout petits là sur les vidéos, hein, et donc j'imagine les parents ne pas laisser leurs enfants traverser la route tout seul. Et puis il arrive un jour où l'enfant dit, mais lâche-moi la main, je peux traverser tout seul. J'ai vu que le piéton vert s'est allumé, je peux traverser la route tout seul. Je suis assez grand. Et il nous arrive à nous, sans vraiment nous le dire, mais de le penser un peu au fond de nous, en tout cas dans notre manière d'agir, nous le pensons. Je suis assez grand, Seigneur. Oui, oui, je sais que tu es là, tu es avec moi. Mais maintenant, je suis un homme mûr, je suis un homme, une femme de Dieu. J'ai compris, je peux aller de l'avant. Et Jésus, quand voilà, nous nous croyons capables et que nous chutons, il est quand même là et il nous tend la main à nouveau. La Bible affirme qu'il est le seul qui puisse nous délivrer de nos doutes, de nos craintes, de nos questionnements. Hein? Ces fameux pourquoi. Pourquoi lui? Pourquoi c'est mon frère, ma sœur, mon père qui a été atteint du coronavirus et qui est décédé ou qui est souffrant actuellement? Pourquoi lui? Dieu, es-tu si souverain que cela? Ne prends-tu pas soin de tes enfants comme la parole le dit? Oui. Et nous sommes sur cette terre. Et ces doutes, ces peurs, Jésus ne les reproche pas, ni les angoisses, mais au contraire, il veut nous en délivrer. Oui, il est le seul qui puisse le faire, comme la Bible dit, nous délivrer aussi de tout ce qui nous emprisonne, de ce qui prend le pas dans notre vie. Rappelez-vous, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, lors de la transfiguration, cette voix qui est sortie de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et ces mêmes paroles entendues lors du baptême de Jésus, et une parole a été ajoutée lors de la transfiguration. Écoutez-le, écoutez-le. Une invitation à entendre sa voix et à y répondre. Écoutez, c'est pas seulement juste, voilà, oui, j'ai entendu quelqu'un là qui a parlé, il a dit quelque chose. Non, non, vous savez, écouter, c'est un peu comme écouter les conseils de ses parents. Dans le sens d'en tenir compte, d'y prêter attention, d'en faire quelque chose. Et Jésus lui-même, d'ailleurs, a invité ses disciples et tous ceux qui écoutaient à l'occasion du sermon sur la montagne, tous ceux qui étaient là autour des disciples, des premiers disciples, eh bien, quand il a conclu son sermon, tous ces récits, toutes ces prédications qui sont mises ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitres 5, 6 et 7, eh bien, à la fin, en 7, 24 et 25, Jésus leur dit, « Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Hein, » vous vous souvenez, bien sûr, hein, et vous avez tous raconté aux enfants hein, le récit de la maison bâtie sur le roc et celle bâtie sur le sable. Hein, cette maison bâtie sur le roc, il a plu averse, la tempête est venue, etc. Et elle a résisté. Et l'écouter, c'est l'écouter ainsi, c'est répondre à son appel. Et quand on répond à l'appel de Jésus, viens, et qu'on met notre main dans la sienne, eh bien, c'est pour marcher avec lui, c'est pour lui faire pleinement confiance, c'est pour bâtir sur ce roc. Ce roc, ce rocher, c'est Christ lui-même, comme l'apôtre Paul le rappelle en 1 Corinthiens 10, au verset 4, en faisant allusion à ce qu'ont vécu nos prédécesseurs dans le désert, le peuple d'Israël. Nous sommes invités à mettre notre main et à la remettre et la remettre jour après jour dans les mains de Jésus pour bâtir sur lui, avec lui et pour lui. Et pas parce que nous avons la foi, mais parce que nous avons foi en lui. Pas parce que j'ai la foi chrétienne, pas parce que j'ai la meilleure foi qui existe, mais parce que j'ai foi en Christ Jésus, parce que j'ai placé ma confiance pleinement en lui. La fin du récit que nous avons lu, donc en Matthieu 14, nous dit ceci, nous avons lu le dernier verset, le verset 33, « Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation donc les disciples qui étaient là, qui avaient été renvoyés par Jésus pour aller de l'autre côté du lac, et il avait l'intention de les rejoindre. C'était d'ailleurs surprenant parce que, pour la petite anecdote, ils sont partis dans la barque, ils ne se sont pas demandé comment Jésus allait les rejoindre. Il allait sans doute faire le tour du lac, mais ça allait lui prendre un certain temps. J'ai plus en tête la circonférence, je l'avais déjà notée, mais pas pour aujourd'hui. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui. Ils se prosternèrent devant Jésus, là dans l'embarcation, dans la tempête encore, en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Pardon, pas dans la tempête, le vent était tombé. « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Voilà ce qu'ils ont reconnu. Ils se sont inclinés devant lui, devant le Fils de Dieu. Quand Jésus nous dit « Viens », c'est oui, devant le Fils de Dieu que nous voulons nous incliner. Ce n'est pas devant n'importe qui, ce n'est pas devant un maître quelconque. Il s'agit bien du Fils de Dieu. C'est lui qui a tendu la main à Pierre. C'est lui qui a sorti Pierre de l'eau. C'est lui qui a fait monter Pierre dans le bateau. C'est lui qui a calmé la tempête. C'est ce Jésus-là à qui nous voulons donner la main aujourd'hui. Peut-être certains d'entre nous, eh bien, n'ont pas encore donné la main à Jésus. Peut-être. Peut-être tous nous avons donné la main à Jésus, mais nous avons besoin de la remettre encore, peut-être aujourd'hui. C'est ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Jésus, voilà, nous dit, viens, viens comme tu es. Pas comme dans la publicité de McDonald's, hein, venez comme vous êtes. Hein. Ça veut dire, venez surtout sans oublier votre portefeuille. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, Jésus nous dit, viens comme tu es, c'est-à-dire toi-même. Avec tout ce qui est à l'intérieur de toi, tes doutes, tes questions, tes peurs, tes angoisses, tes doutes, tes déraillements, tes idoles, ce qui t'a éloigné de moi, viens. Jésus dit, celui qui place sa confiance en moi, celui qui croit en moi, vivra. C'est une réelle promesse, pas seulement pour la vie éternelle d'après, pas seulement pour le royaume de Dieu à venir, mais pour le royaume de Dieu qui est déjà là, en avant-goût de ce que sera le royaume à venir, c'est-à-dire la plénitude du royaume de Dieu, la plénitude de sa présence, du temple de Dieu. J'aimerais vous proposer de terminer tout simplement en priant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour toutes les richesses que nous trouvons dans ta parole. Oui, il est vrai qu'elle est vivante pour nous aujourd'hui. Il est vrai que tous ces récits qui nous sont rapportés, ces 3 années que tu as vécues avec tes disciples et que tu as chargé de nous transmettre ta parole, ton enseignement, Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de l'avoir aujourd'hui. Nous sommes tellement reconnaissants de toutes celles et ceux qui nous ont précédés, qui ont réfléchi, qui ont travaillé, qui ont essayé de comprendre ta parole, pour toutes les découvertes encore récentes qui nous aident à mieux comprendre ce que tu veux nous dire, pour l'expérience des frères et sœurs, pour ce que tu fais dans la vie des uns et des autres, ce que tu as fait dans ma propre vie, dans nos vies. Seigneur, nous voulons te bénir aujourd'hui et nous voulons te demander, Père, de nous aider à ne pas perdre la vision de Jésus, à ne pas perdre notre horizon, cet horizon de la vie éternelle qui a commencé dès maintenant, de ce royaume que tu es venu prêcher, qui s'est ouvert, dont tu as posé les bases, Seigneur, et que nous vivons, c'est vrai, d'une manière discrète aujourd'hui, mais qui éclatera au grand jour. Seigneur, nous voulons te bénir pour Jésus, nous voulons te louer parce qu'il est réellement vivant pour chacun d'entre nous aujourd'hui, et parce que non seulement nous pouvons mettre notre main dans la sienne, mais nous savons que lui nous garde précieusement et qu'il est toujours là. Béni sois-tu, Père éternel, pour ton œuvre puissante, pour l'œuvre de Christ à la croix, dans son nom précieux. Amen.